Donc les lectures pour cette première messe de Noël. L'épître de Saint Paul apôtre à Tite. Très cher fils, la grâce de Dieu notre Sauveur s'est manifestée à tous les hommes pour nous apprendre à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde, afin de vivre ici-bas dans la sobriété, la justice et la piété, attendant la bienheureuse espérance et l'avènement de la gloire du grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, lequel s'est livré lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorté à les pratiquer en Jésus-Christ notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement fut fait par Cyrinus, gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Nazareth, ville de Galilée, en Judée dans la ville de David, appelé Bethléem parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or il arriva, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait enfanter furent accomplis. Et elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même contrée des bergers qui passaient les veilles de la nuit à la garde de leurs troupeaux. Et voici qu'un ange du Seigneur leur apparut et qu'une lumière divine resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Et l'ange leur dit, ne craignez point, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'il vous est né aujourd'hui dans la cité de David un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et vous le reconnaîtrez à ce signe, vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Au même instant, il se joignit à l'ange une troupe de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. » Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je vous souhaite à tous une sainte fête de Noël, alors que le monde presque entier ne pense qu'à la mangeaille et aux choses matérielles. Nous sommes devant l'enfant Jésus qui vient de naître. C'est une grâce de pouvoir être là. Nous pourrions être comme tous les autres. Nous pourrions aussi festoyer, ne penser qu'aux choses matérielles. Pourquoi est-ce que le bon Dieu vous a donné à vous et à moi la grâce d'avoir conservé la foi ? Voilà une bonne question. Alors essayons un petit peu, nous aussi, de nous présenter à l'entrée de la grotte et d'être avec notre Seigneur. Si nous faisons tout petit, peut-être que nous pourrons même demander à la très Sainte Vierge Marie la grâce de pouvoir toucher l'enfant Jésus, le bercer, l'embrasser. Je vous ai dit il y a peu de temps, dans un des sermons, que la très Sainte Vierge Marie était la patronne de la contre-révolution. On peut dire que notre Seigneur, c'est la contre-révolution par excellence. Et en ces temps où la révolution éclate partout, on voit partout dans le monde aujourd'hui, la réponse elle est là. La contre-révolution, c'est Dieu qui se fait homme contre l'homme qui veut devenir Dieu. Dieu qui se fait homme. C'est quelque chose d'absolument impensable. La première personne de la Sainte Trinité qui demande à la deuxième personne de la Sainte Trinité de prendre une nature humaine, tout ça pour naître dans le froid de la grotte de Bethléem, souffrir et mourir pour les hommes. Imaginez une baleine qui vient aider une petite crevette grande comme ça. Ou un éléphant qui vient aider un tout petit insecte, une petite mouche. Comment Dieu a-t-il pu penser une chose pareille? C'est ça l'incarnation. Et en face de cette incarnation, l'homme, au contraire, ne pense qu'à une seule chose, se monter jusqu'à Dieu. Prendre la place du bon Dieu. Alors essayons un petit peu de développer, mes bien chers frères, un petit peu ces points ensemble. Première des choses qu'il faut comprendre, c'est que la vertu toute première que notre Seigneur Jésus-Christ va manifester dans la crèche, c'est la vertu d'obéissance. Il a été obéissant à son Père jusqu'à la mort et la mort de la croix. Toi, Seigneur, aurait pu dire, pourquoi une humiliation pareille? C'est tout pour des hommes qui pensent qu'à eux. Notre Seigneur Jésus-Christ vient nous manifester l'esprit d'obéissance. Il nous rappelle le principe d'autorité. Pourquoi cette obéissance? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ vient d'abord manifester cette obéissance à son Père par sa naissance dans le froid de la grotte de Bethléem? Pour lutter contre quelque chose. Parce que cette obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le contraire de la liberté révolutionnaire. Notre Seigneur Jésus-Christ obéit. L'homme, au contraire, hurle avec le démon, je ne servirai pas. Jamais souffrir, jamais mourir. Et donc l'obéissance que nous devons méditer en l'enfant Jésus qui naît à Bethléem va nous aider justement à éliminer de notre esprit cette grande idée, fausse idée, idée blasphématoire de la liberté humaine. L'homme est libre, disent-ils. L'homme n'est pas libre. La preuve, Bethléem. L'homme n'est pas libre de faire ce qu'il veut, il a simplement la liberté de se mouvoir dans le bien, disait le pape Léon XIII. La liberté de choisir le meilleur moyen pour atteindre sa fin. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Donc pour bien montrer que cette liberté révolutionnaire est une folie, notre Seigneur Jésus-Christ nous montre l'exemple de l'obéissance. Et la deuxième vertu qu'il va manifester, c'est la vertu de justice. Vertu de justice parce qu'il est obligé de devenir enfant pour réparer les maux de la terre, réparer le péché. C'est ça la vertu de justice. La vertu de justice, c'est quoi? Rendre à chacun ce qui lui est dû. Et donc rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et puisque Dieu a été gravement offensé dans sa divinité par la révolte de l'homme, il y a dans le péché quelque chose d'infini. Comment voulez-vous réparer une chose infinie avec une chose finie, une chose de nature finie? C'est impossible. Donc Dieu va envoyer lui-même, puisque Dieu seul est infini, pour réparer l'infinité du péché de l'homme. C'est ça la vertu de justice. Et cette vertu de justice qui va nous faire tomber à genoux pour prier Dieu, pour adorer Dieu, comme les anges ont fait, comme les bergers ont fait, comme les rois mages vont bientôt faire. Et pour toi, pourquoi cette vertu de justice? Cette fois-ci, pour réparer l'égalité révolutionnaire. L'égalité révolutionnaire, c'est quoi? C'est d'abord l'injustice placée, si vous voulez, en base de toute chose. L'homme qui se révolte contre Dieu. Une petite créature de rien du tout qui se révolte contre son Créateur. C'est ça la révolution. Et deuxième grand mot de la révolution, après la liberté qui est détruite, la fausse liberté révolutionnaire qui sera détruite par l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et la fausse égalité qui va être détruite par la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième vertu que notre Seigneur va pratiquer, c'est la troisième vertu. Attendez que je retrouve mon point là. C'est la vertu de justice. Pardon, je me trompe. Attendez, excusez-moi, la vertu de charité. La vertu de charité. Et la vertu de charité, comment se manifeste-t-elle? La vertu de charité, c'est d'abord l'amour de la vérité. Et la vraie charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aime ses enfants au point de venir se faire homme pour chacun d'entre nous, souffrir et mourir, va rattraper la fausse fraternité révolutionnaire. Vous voyez comment on voit dans la crèche de Bethléem ces trois grandes vertus, l'obéissance, la justice, la charité, pour éliminer, écraser les trois formes de l'orgueil révolutionnaire, de liberté, d'égalité et de fraternité. Je ne servirai pas, dit la révolution. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de la crèche. C'est pour ça que dans le monde moderne, on voit très bien en France, la crèche est bannie partout, dans tous les lieux publics, et encore tolérée dans les familles. mais dans les lieux publics, elle était interdite. Pourquoi? Parce que la crèche, justement, rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ se fait homme pour que nous puissions nous mettre à genoux devant lui. L'homme devient grand quand il sait se mettre à genoux. Et l'homme saura conserver la foi dans la mesure où il accepte de se mettre à genoux. L'homme qui refuse de se mettre à genoux, qui au contraire pratique cet orgueil de fou, sera incapable de conserver la foi. Alors je voudrais appliquer ce que je viens juste de vous dire, justement à la crèche de Bethléem. Et pour essayer de faire ce parallèle entre la crèche et le monde, je vais prendre trois exemples. Pour en prendre plus, je donne simplement trois exemples. Premier exemple, c'est le temple que représente la crèche. La crèche devient un temple parce que notre Seigneur Jésus-Christ y vient lui-même. De la même façon que cet oratoire ici est un temple de Dieu parce que notre Seigneur Jésus-Christ y descend pendant la Sainte Messe. Donc d'un côté, vous avez le temple de Dieu. Quand on rentre dans la crèche, qu'est-ce qu'on voit? L'humilité, la bonté, la charité, le silence, l'adoration, la contemplation, l'humilité. Et face à ce temple divin, on peut mettre en contrepartie le temple moderne, qui est un temple de consommation. Donc par rapport à la crèche, on va mettre d'un côté la crèche, de l'autre côté, je vais mettre un grand magasin pendant la période de Noël. Du bruit, des flonflons, l'orgueil, l'égoïsme, la laideur, la bêtise. Et on remplace notre Seigneur Jésus-Christ par le Père Noël. Donc on voit d'un côté l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche, l'autre côté l'orgueil de l'homme moderne, avec toutes ces choses matérielles et le monde moderne qui nous dit consommer, 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 dépenser, 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 pour oublier que vous avez une âme. Deuxième point, peut-être un peu vous choquer, j'y ai pensé en préparant ce sermon. Deuxième point, c'est notre Seigneur Jésus-Christ emmailloté de l'ange. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, un enfant emmailloté de l'ange. Moi, ça fait penser à une poupée. Vous savez, ces poupées anciennes. Une poupée, un petit poupon. Emmailloté de l'ange, vous voyez ces petites filles qui jouent avec leur poupée, qui l'habillent, qui les habillent, qui la nourrissent, qui s'occupent de l'enfant. Donc on voit très Sainte Vierge Marie, mère aimante, s'il en est, qui s'occupe de son enfant. D'un côté, l'enfant Jésus. Et de l'autre côté, pour bien montrer l'incompatibilité des deux choses, en face de cette poupée divine, je mets une autre poupée. Et la poupée, à mon avis, qui représente le mieux l'inanité du monde moderne, c'est la poupée Barbie, l'invention de Mattel. Tous les pays du monde où je suis passé, je connais pas tous les pays, mais une bonne partie, une certaine partie au moins, partout elle est là, cette poupée. Cette poupée qui représente la femme sensuelle, la femme libérée de toute autorité au-dessus d'elle. Donc, comment voulez-vous pouvoir mettre en parallèle l'enfant Jésus emmailloté par sa mère et la poupée Barbie d'un autre côté? C'est peut-être un exemple un peu fort, mais à mon avis, ça représente exactement cette opposition radicale entre l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enseignement de l'Évangile et l'enseignement du monde moderne. Et quand on donne ces poupées épouvantables à nos petites filles modernes, elles n'ont qu'une idée dans la tête, c'est devenir comme elles. Alors qu'au contraire, si on médite sur l'enfant Jésus dans la crèche, qu'on regarde la très Sainte Vierge Marie, on n'a qu'une idée, c'est d'imiter la pureté extraordinaire de la très Sainte Vierge Marie. Et troisième exemple que je voudrais vous donner, c'est les visiteurs de la crèche. Qui est-ce qui va venir tout de suite? Les anges, puis les bergers, et 6 janvier vont arriver les rois mages. Tous arrivent pour adorer. Ils viennent parfois de très loin, les anges ils viennent du ciel. Les bergers venaient pas très loin, mais enfin, il quand même fallait venir pendant la nuit. Les rois mages, ils viennent, on ne sait pas trop, d'Asie, d'Arabie heureuse, d'Iran, de Perse, on ne sait pas. Ils viennent pour adorer notre Seigneur. Et ils viennent en amenant ce qu'ils ont. Les anges viennent apportent leur adoration extraordinaire, de pur esprit. Les bergers vont amener ce qu'ils avaient, pas grand-chose, mais ils ont amené ce pas grand-chose. Et les grands rois vont amener l'or, l'encens, la myrrhe. L'or au roi, l'encens au Dieu, la myrrhe à l'homme. Et en face de ça, qu'est-ce que vous avez? Le massacre des saints innocents. Hérode, qui non seulement refuse notre Seigneur Jésus-Christ, mais cherche à le tuer et massacre tous les enfants de moins de 2 ans de la région de Bethléem pour essayer d'éliminer notre Seigneur Jésus-Christ. D'un côté, l'amour, la charité extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ qui donne sa vie, qui devient homme pour chacun d'entre nous. Et de l'autre côté, vous avez l'horreur du monde moderne. Et les saints innocents représentent l'infanticide d'aujourd'hui. Quand vous pensez dans notre pauvre pays de France, 200 000 enfants assassinés, broyés en morceaux dans le sein de leur mère par l'avortement. Et vous voyez, quand on médite ainsi, on comprend la folie, il n'y a pas d'autre mot à utiliser, de ceux qui veulent marier ensemble les principes de notre Seigneur Jésus-Christ et les principes de la Révolution. C'est ça la folie du monde moderne. C'est ça la folie d'un Bergoglio aujourd'hui. Marier les principes de notre Seigneur Jésus-Christ avec les principes de la Révolution. La Révolution, c'est quoi? C'est Hérode qui cherchait notre Seigneur Jésus-Christ pour le tuer. L'Église catholique, c'est quoi? C'est les bergers, les anges, les rois mages et nous qui venons nous agenouiller au pied de la crèche, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, au pied de la crèche. Nous voyons un enfant et dans cet enfant, nous voyons un Dieu. Nous reconnaissons qu'il est vraiment Dieu. C'est ça qu'ont fait les rois mages. Et pourtant, ils étaient des païens. Ils sont arrivés, ils ont tout suivi l'étoile et ils ont vu en cet enfant un roi. Un Dieu et un homme. Et donc, il faut, mes bien chers frères, en ces temps de folie dans lesquels le bon Dieu nous demande de vivre, il nous faut être des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. De quoi l'Église catholique a-t-elle besoin? De quoi avons-nous besoin? Souvent, les gens me posent cette question, je reçois souvent des messages un peu partout. Monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut que j'achète une Kalachnikov et protéger ma famille avec ça? Vous allez loin avec ça, tiens. Comment allez-vous protéger votre famille? Avec notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez notre Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, si vous avez cet enfant qui semble apparemment un enfant qui ne peut rien faire, n'oubliez pas que cet enfant porte le monde. Ce bébé qui est grand comme ça dans les mains de la Sainte Vierge Marie, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est le créateur de tous ces imbéciles autour de nous qui cherchent à éliminer notre Seigneur. Ça fait 20 siècles que le démon et la révolution essayent d'éliminer notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas encore réussi. Certes, humainement parlant, l'Église catholique se réduit comme une peau de chagrin, mais notre Seigneur est toujours là. Si vous étiez venu au monde au 2e, au 13e, au 3e siècle, pendant les grandes persécutions, vous pourriez vous demander, mais où est l'Église catholique? Ils sont tous cachés. Ils sont dans les catacombes. La nuit, ils sortent à 2 h du matin pour se réunir et célébrer la Sainte Messe. Et quand ils sont pris, c'est les lions tout de suite. Humainement parlant, il n'y a aucun avenir. Et regardez ce qui est devenu l'Église catholique. Parce qu'en 313, le bon Dieu a permis la conversion de l'empereur Constantin grâce à sa mère, Sainte Hélène. À ce moment-là, d'un seul coup, l'Église catholique a renaît de ses cendres. Elle est née de ses cendres de nouveau. Mais c'est exactement ce qui peut se passer. Si ça s'est passé une fois, ça peut se repasser aujourd'hui. L'Église catholique, elle est où aujourd'hui? À Rome, sûrement pas. Elle est dans nos cœurs, mes bien chers frères. Vous tous qui, dans le monde, conservez la foi dans un monde complètement fou, même s'il y a 1 000 ou 2 000 familles catholiques en France, je ne sais pas combien, Dieu seul qu'on peut redonner un chiffre. Quelques milliers de familles encore vraiment catholiques en France, guère plus, eh bien l'Église catholique, elle est là. Et qu'est-ce qu'il nous dit, notre Seigneur Jésus-Christ? Il nous dit, ne craignez rien, petit troupeau, parce que j'ai vaincu le monde. Il nous dit, petit troupeau. Il ne nous dit pas, ne craignez rien, vous tous qui allez envahir le monde avec des millions et des millions et des millions de catholiques. Ne craignez rien, petit troupeau. Et pour bien nous faire comprendre ce qu'il veut dire, il rajoute, à la fin du monde, lorsque je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi. Mais si au moins, quand il revient, il trouve la foi dans vos cœurs, dans mon cœur, notre Seigneur Jésus-Christ saura nous reconnaître, nous, comme des enfants de Dieu. Mais monsieur l'abbé, on est tellement peu nombreux. Regardez la crèche. Quand même pas grand monde, hein. Bon, je sais bien que les anges, il y en a pas mal. Les bergers, il y en avait trois. Trois bergers, trois rois mages. Ça fait quand même pas grand monde, ça. Les rois mages vont devenir martyrs. Les bergers aussi. Leur corps est à Salamanque, en Espagne. Et les corps des rois mages, à Cologne, en Allemagne. Ils sont partis eux aussi prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Et la force qui est la nôtre, c'est une force qui, apparemment, est une force qui n'est pas une force. Si je vous présente l'enfant Jésus dans les mains de la Sainte Vierge Marie, je vous dis, voyez cet enfant? C'est le sauveur du monde. Cet enfant, sauveur du monde, un petit bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Il porte le monde sur ses épaules. Il porte le monde sur ses épaules. Eh bien, nous allons, nous aussi, mes bien chers frères, pendant cette nuit de Noël, demander à notre Seigneur Jésus-Christ de venir naître dans nos âmes. C'est ça, la fête de Noël. La fête de Noël, ce n'est pas simplement l'incarnation il y a 2000 ans. La fête de Noël, c'est également la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos âmes. Pour cela qu'il y a trois messes à Noël. La première messe, la messe de minuit, que je célèbre maintenant, célèbre la naissance physique de notre Seigneur à Bethléem. Mais la messe de l'aurore, que je célébrerai demain, aujourd'hui à 10h, la messe de l'aurore, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ spirituellement dans mon âme. Et même physiquement, dans mon âme par la Sainte Communion. Et la troisième messe, ce soir à 18h, si Dieu veut, la troisième messe, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sein de la Sainte Trinité. Notre Seigneur Jésus-Christ est le roi du monde. Même aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Et n'oublions pas quand on voit nos gouvernants détruire complètement la famille catholique, détruire complètement les racines même de la France catholique, n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ est toujours Dieu. Que cet enfant qui naît dans la crèche de Bethléem est toujours le sauveur du monde. Et qu'à côté de lui, qui prend soin de lui, notre Sainte Vierge Marie. N'oublions pas notre Sainte Vierge. Là où il y a le roi, il y a la reine. Notre Seigneur Jésus-Christ est le roi du monde, mais il a voulu à côté de lui, dès le début, sa mère. Donc demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous donner cette foi. Elle aurait pu, elle aussi, se poser des questions, quand même. Imaginez que ça vous soit arrivé à vous. Le Fils de Dieu arrive. Oh, on n'a même pas une maison. On n'a pas un toit. On n'a rien à manger. Il fait froid. On est dans une grotte. On n'a pas humide, mais il n'y a rien. Il n'y a aucune commodité. Et c'est comme ça que notre Seigneur va vaincre le monde. Est-ce qu'elle a eu des doutes? Est-ce qu'une seule seconde, notre Sainte Vierge Marie a pu douter en se disant « Peut-être que je me suis trompé. » Pas une seule seconde, elle savait « Cet enfant est le Fils de Dieu. » Cet enfant est le Fils de Dieu et cet enfant a le pouvoir de sauver le monde. Alors gardons-le bien, ce Fils de Dieu. Cet enfant, notre Seigneur Jésus-Christ, gardons-le en notre cœur par la grâce sanctifiante. Et si vous avez cet enfant en vous, croyez-moi, personne ne pourra toucher votre âme. Ils pourront toucher vos corps, oui, mais pas votre âme. Alors demandons à ta Sainte Vierge Marie cette grâce de conserver la foi malgré les temps de plus en plus difficiles dans lesquels nous vivons, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a promis que nous ne serions jamais tentés au-delà de nos forces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.